RMC Football Show, l'After Foot, François Pinet.
C'est parti pour l'After jusqu'à minuit. Merci à tous de nous rejoindre sur RMC. Pendant deux heures, on va parler foot, bien évidemment, avec, sur ce plateau, avec moi, Ali Benarbia. Salut Ali.
Salut François.
Ça va bien?
Très bien, pleine forme.
Et puis il a mis la casquette. Si vous êtes sur RMC Sport News, vous allez voir un look inédit pour Ludovic Obraniak. Salut Ludo.
Bonsoir tout le monde.
G.I. Alors pourquoi tu as mis la casquette? Tu peux le dire quand même?
Parce que j'étais pas coiffé.
Il n'y a plus rien, sur la tête.
Tu sais, moi je mets pas de casquette et pourtant je devrais peut-être. Bon, allez, pour tous ceux qui nous regardent là.
Pour tous ceux qui nous regardent, évitez les blagues du genre garde forestier, Nicolas Vanier, tout ça. Bon, on s'en passe bien.
Alors, et la chemise. Au menu, c'est vrai que c'est un ensemble. Au menu ce soir de l'After, les trois matchs de la 20e journée de Ligue 1. Le PSG qui s'est imposé face à Amiens 3-0 et Thomas Tuchel a peur pour le mercato à venir. Guingamp s'est incliné à domicile face à Saint-Etienne 1-0 et puis Nice a battu Bordeaux 1-0. Dans la deuxième heure de l'After, on parlera du match de la peur demain entre Marseille et Monaco. Et puis la première ligue au programme avec Julien Laurence, Nasri qui a brillé avec West Ham contre Arsenal, Chelsea qui a battu Newcastle. Et demain, le choc entre Tottenham et Manchester United à moins d'un mois de PSG-Manchester en Ligue des Champions. On vous attend évidemment au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Si vous voulez réagir, on lira vos messages. Mais on va d'abord rappeler les résultats donc de ce soir. En Ligue 1, il y avait trois matchs lors de cette 20e journée qui se disputait aujourd'hui. Le PSG a battu Amiens 3-0. Ça se passait à Amiens avec notamment un but de Cavani, de Mbappé et de Marquinhos. Guingamp s'incline à domicile 1-0, but de Cazeri pour Saint-Etienne. Et puis Nice qui bat Bordeaux 1-0, but d'Alan Saint-Maximin sur penalty. En Ligue 2, c'était la 20e journée, un but partout entre Brest et Troyes. Brest qui est deuxième derrière Metz, à 5 points de Metz. Et puis 0-0 entre Grenoble et Le Havre. En Angleterre, c'était la 22e journée de Première Ligue. Victoire de Chelsea 2-1 grâce à Pedro et Willian. Victoire de West Ham face à Arsenal 1-0. Samir Nasri a rejoint, on en parlera avec Julien Laurence. Liverpool s'impose 1-0 à Brighton grâce à Mohamed Salah. Et puis Leicester battu par Southampton à domicile 2-1 en Espagne. Valence et Valladolid font match nul, un but partout. Et puis en Italie, c'est de la coupe avec en ce moment la Juventus qui mène 2-0 à Bologne grâce à Bernadeschi et Keane. Et puis la victoire de la Lazio face à Novare 4-1. Donc la Lazio qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe d'Italie. L'AC Milan se qualifie également après une victoire 2-0 contre la Sampdoria en prolongation avec un doublé de Cutrone. On débute cet after tout de suite sur RMC avec le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les trois points avec, d'abord, pour commencer, peut-être les trois points de Ludo.
Ah non, on laisse
les trois points
au taulier.
Alors, puisque c'est toi qui gères cette émission, j'ai bien compris, maintenant que tu es installé.
Impose-toi.
Non, alors, c'est le taulier, moi j'ai toujours respecté les anciens.
Non, c'est parce qu'il n'a aucune idée sur ces trois points.
Je vais d'abord te laisser parler. J'ai bien une idée.
Non, pas de copier, on va voir. Vas-y, Ali.
Nouvelle victoire donc du Paris Saint-Germain. Ça faisait un moment, Kikikibé, donc il se rassure, et but d'Mbappé. Ça faisait un certain temps. Premier point. Deuxième point, Saint-Etienne qui confirme. On parlait même pas de cette équipe de Saint-Etienne avec les changements qu'il y a eu. Mais ils sont troisième ex aequo ce soir avec Lyon. Ils parlent pas, on n'entend pas parler d'eux. C'est très bon début de saison de Saint-Etienne. Et troisième point, le retour de Nasri en Angleterre. Apparemment, personne ne voulait de lui. Quelque chose de très intéressant. Pellegrini, qui a du caractère, le récupère. Et je pense que ça va être un bon choix pour West Ham.
Et on en parlera avec Julien Laurence, évidemment, dans l'after. Ludo, tes trois points.
Non, je dirais Tourelle, qu'est-ce que je l'aime. Finalement, ce personnage pour qui je pouvais avoir un sentiment plus ou moins mitigé au départ est en train de me convaincre, mais totalement, il pourrait me faire tout avaler. Je dirais si quand même, il a un charme qui fait que
il est amoureux, Ludo.
Il pourrait dire n'importe quoi, franchement, ça passe. Et en deuxième, je dirais Nice, mine de rien, sixième, avec tout ce qui se passe en ce moment, ils sont quand même sixième du classement. Imaginons ce que ça pourrait être si, toutefois, on donnait un peu plus de cartouches à Patrick Vieira et obligeait Nasri le Phénix, René de ses cendres, après 18 mois d'inactivité, son match de coupe Et son match de ce soir.
Tu as largement dépassé le chrono là, mais.
Mais c'est pas grave.
Mais comme c'est lui le chef.
Tu vois, j'avais pas la casquette, j'en avais ras la casquette. donc, je fais comme je veux ce soir.
Okay, très bien.
Et donc Nasri, ouais, surprenant.
En roue libre, Ludo, ce soir. Mes trois points, vous les voulez ?
Oui.
Le match de Cavani, un but, une passe D, une première mi-temps horrible. Et une deuxième période qui effectivement a réussi. Mais juste avant, je reviens sur mes trois points dans un instant parce que Maureen Lehoux est avec nous en direct avec Lucas Karabatic. Maureen, ouais, c'est à toi pour la victoire de la France face à la Serbie.
Le pivot de l'équipe de France, effectivement. Lucas, un début de match très physique, très intense. Et puis ensuite, on a le sentiment que les Bleus, bien voilà, ont pris leur rythme de croisière, ont déroulé tranquillement finalement dans cette rencontre.
Ouais, ça a été un peu ça. Je pense qu'on a vraiment su les faire plier en étant sérieux du début à la fin. Serbie est une équipe dangereuse, on l'a vu en début de match avec voilà beaucoup de densité physique, une grosse défense, mais on a comme je dis, on n'a pas paniqué, on a continué à les attaquer calmement et puis au bout d'un moment ils ont un petit peu baissé le rythme et là on en a profité pour faire un premier écart et puis je pense qu'en deuxième mi-temps on a rattaqué aussi de manière sérieuse en se mettant tout de suite à l'abri et en ne commettant pas les erreurs de la veille. On avait à cœur de faire un match vraiment complet et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on a été vraiment sérieux jusqu'au bout et c'est ce qui fait qu'on a un bel écart à la fin.
Il y en a un qui a particulièrement aussi suivi cette rencontre, c'est votre frère Nicolas Karabatic qui a été rappelé comme 18e homme. Vous l'avez retrouvé aujourd'hui, ça fait du bien, comment il va? Vous avez pu parler un peu?
Ça fait plaisir de se retrouver, on n'avait pas... Ça fait quelques temps qu'on s'était pas vu parce que moi j'ai eu peu de vacances, lui a pu souffler un peu et on s'était pas revu depuis cette nouvelle année. Donc déjà c'est vraiment un plaisir de le retrouver et puis encore plus sur le maillot de l'équipe de France. Après, je suis vraiment content déjà au-delà du fait qu'il ait pu nous rejoindre que sa blessure aille mieux. C'est le plus important parce que au moment de l'opération, on n'avait aucune certitude et là il est déjà quasiment capable de jouer. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Après, est-ce qu'il pourra nous aider, ça on sait pas encore, mais il y a une chance, donc c'est très positif pour lui, très positif pour l'équipe de France.
Lui en tout cas, il est dans cet état d'esprit là de pouvoir rejouer rapidement avec vous, avec ce premier entraînement dès demain.
Oui, de toute façon c'est un grand compétiteur et il le montre aussi, enfin il le montre toujours dans l'adversité, là ça a été l'adversité de la blessure et il s'est vraiment battu pour pouvoir revenir le plus vite possible. Donc il n'est pas encore, je pense, à 100%, mais peut-être pas loin de l'être. Donc les jours qui vont arriver seront décisifs.
Merci beaucoup Lucas Karabatic. Nicolas Karabatic qui fera son premier entraînement demain. Je garde la main, François, si c'est
oui.
possible, parce que Didier Dinard, le sélectionneur, est juste à côté de moi. Didier, soulagement sûrement, parce que c'était un début de match très intense, très physique, et puis ensuite voilà, l'équipe de France a déroulé, a trouvé son rythme, ses automatismes. On devait être satisfait après cette victoire.
Aujourd'hui, oui, c'est une satisfaction. On sait très bien qu'on ne peut pas faire la différence d'entrée de match. L'équipe de Serbie est une équipe de qualité, ils l'ont montré hier. Nous, on avait un match un peu étriqué face au Brésil. Et on avait à cœur d'épurer un peu et de se sentir mieux. Aujourd'hui, on est resté sur notre philosophie avec les rotations. On a pu voir des joueurs vraiment prendre des relais très intéressants et faire un match vraiment abouti.
Après cette victoire un peu étriquée, comme vous venez de dire, face au Brésil, il y a eu cette annonce du retour de Nicolas Karabatic qui était là ce soir dans les tribunes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment vous l'avez trouvé à son arrivée ici à Berlin?
Ben Nicolas, nous avons eu l'aval de sa direction, donc Nicolas est apte à reprendre l'entraînement, donc il va réintégrer les séances avec nous et puis nous nous positionnerons pour savoir à quel moment il devra intégrer si le cas échéant le permet.
Il y a une petite idée déjà ou pas?
Pour l'instant, il n'y a pas d'idée. On va déjà le voir à l'entraînement. Il n'a pas participé à la préparation avec le collectif. Donc il faut quand même être cohérent par rapport au choix.
Il y a l'idée quand même que Nicolas Karabatic est un peu indispensable à cette équipe, comme depuis 15 ans. Même sans jouer, il faut qu'il soit là. Il amène quelque chose à ce collectif.
Il amène, oui, on sait qu'on ne faut pas s'en priver. Il fait partie dans un principe de cette fameuse liste élargie de 28. Aujourd'hui, si Nicolas est apte, sachant qu'on sait qu'il y a énormément d'enjeux sur ce mondial par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo, je pense que si on rajoute des forces vives comme Nicolas, d'autant plus qu'on sait la valeur ajoutée que c'est que bénéfique pour l'équipe de France.
J'imagine que vous avez hâte de le voir à l'œuvre demain à l'entraînement.
Oui, nous avons hâte de faire un bilan complet avec lui. Et puis, je pense quand même qu'il a besoin de rythme puisqu'il a été 3 mois sans compétition. Donc, faut pas faire n'importe quoi non plus.
Merci beaucoup Didier Dinard, le sélectionneur de l'équipe de France. Après cette victoire donc de la France face à la Serbie 32-21 et cette présence de Nicolas Karabatic en tant que 18 hommes dans les tribunes de la Mercedes-Benz Arena.
Merci beaucoup Maurice. Je vous rappelle que tous les matchs de l'équipe de France de handball sont à suivre en intégralité sur RMC, la radio officielle de ces championnats du monde. Allez, on repart pour mes trois points dans l'after. Je vous parlais de Cavani, donc première mi-temps horrible et puis la deuxième mi-temps il a marqué sur pénalty et surtout cette passe pour Kylian Mbappé qui prouve quand même qu'il n'est pas si maladroit que ça. C'est une belle passe décisive pour Cavani. On le critique souvent, donc je voulais lui rendre hommage. Saint-Etienne, qui effectivement est sans doute bien placé pour jouer un bon coup dans ce championnat. En tout cas, la suite va être très intéressante pour les Verts, puisqu'ils affrontent, après cette victoire à Guingamp, Marseille et Lyon. Donc il y a une bonne chance de s'installer et pourquoi pas durer sur le podium de la Ligue 1. Et puis, en Angleterre, j'ai retenu que la lune de miel entre Unai Emery et Arsenal semblait s'effriter un petit peu. Il y a un peu d'eau dans le gaz sans doute. En tout cas, encore une défaite pour les Gunners contre West Ham, le West Ham de Samir Nasri. On aura l'occasion d'en reparler dans cet after. Voilà. On va commencer par le PSG, hein, puisque c'est l'événement foot de la journée. Le PSG qui était attendu au tournant après son élimination en Coupe de la Ligue par Guingamp cette semaine. Victoire 3-0 à Amiens grâce à Cavani sur pénalty, grâce à Mbappé servi par Cavani sur le deuxième but. Son 14e but au passage cette saison pour Mbappé, qui est leader du classement des buteurs. Et c'est Marquinhos qui a inscrit le troisième but. Vous les avez trouvés comment les Parisiens, convaincants ou encore un petit peu en rodage sur cette rencontre?
Beaucoup plus qu'en rodage, une reprise, ils sont dans la gestion. Ce que je n'aime pas trop, mais bon, comme il y a beaucoup de changements, ce qu'on se rend compte par contre, c'est que le groupe a récupéré pratiquement tous ses blessés, puisque Alves est revenu, on a vu aussi Kurzawa. Donc là, on n'a aucun joueur de blessé, simplement Tuchel fait un petit peu tourner, et ceux qui a l'impression qu'ils doivent pas spécialement jouer un petit peu comme Neymar, ben il les met de côté, mais maintenant, on a tout le groupe, tout l'effectif, donc automatiquement les jeunes sont en train de disparaître. On voit de moins en moins Nkunku, Diaby qui est rentré un petit peu.
Ouais.
Donc on voit plus les jeunes qu'on voyait début de saison qui amenaient un petit peu cette fraîcheur et qui remettaient en lumière un petit peu le centre de formation. C'est un petit peu dommage, mais l'effectif est prêt pour attaquer cette seconde partie qui va être très importante. Mais sinon, dans la gestion, c'était beaucoup plus facile parce que c'est pas le Amiens de la saison dernière qui était capable à domicile de faire mal à beaucoup d'équipes. Cet Amiens-là me fait un petit peu de la peine et se sont pratiquement approchés, ne serait-ce qu'une fois, de la cage du Paris Saint-Germain.
Mais la fois où ils se sont approchés, c'était juste avant la mi-temps, l'arrêt d'Areola qui change tout. Il y avait 0-0 à ce moment-là.
Oui, mais c'est juste une action. Si c'est plusieurs actions, tu peux te dire, ce qu'il avait l'habitude de faire Amiens la saison dernière, c'était très très bien et contre toutes les équipes. Donc du coup, ça a permis un petit peu au PSG d'en profiter, d'être dans la gestion et de leur faire mal quand il fallait.
50 points pour le PSG au bout de 18 matchs, donc la barre symbolique des 100 points sera peut-être franchie ou en tout cas atteinte par le Paris Saint-Germain cette saison. Ludovic, toi t'avais donc ton coup de cœur, je sais pas si ça date de ce soir seulement, mais pour Thomas Tuchel.
Non, c'est pas seulement de ce soir, je suis séduit par ce personnage qui s'adapte à toutes les difficultés qu'il peut rencontrer, qui se sert des défauts de certains pour en faire des qualités, qui fait passer des messages sans être trop abrupt vis-à-vis des dirigeants, qui parle un français qui nous séduit. En tant que Lorrain, je peux pas dire que bon, les Allemands c'est ma
t'as appris l'allemand.
Mais oui, j'en ai appris un, mais je trouve qu'il a, il c'est un charmeur. J'ai pas connu ça, moi, le Thomas Tuchel que j'ai connu quand j'ai joué en Bundesliga, c'était quelqu'un d'assez
plus cassant,
impulsif, souvent agressif avec ses joueurs. Il y a une adaptation et un changement radical chez lui qui me surprend et qui me séduit vraiment. Je trouve qu'il s'adapte à tout. Tous les sujets évoqués, il ne les écarte pas d'un revers de la main. Au contraire, il les prend, il en fait des forces.
Même tu vois, pour Rabiot.
Cet après-midi, il fait une composition d'équipe où il met Dani Alves au milieu.
Bah alors justement, Dani Alves, il le met au milieu, mais c'est vraiment du bricolage. On a vu que Dani Alves,
alors,
c'est pas vraiment son poste.
Laisse-moi finir. Il met Dani Alves au milieu en disant...
C'est pas pour ça.
Il met Dani Alves au milieu en se disant bon, les amis, N'oubliez pas que au milieu de terrain, ça serait bien si on avait quand même quelqu'un pour aller plus loin, pour envisager la suite avec de plus de certitude. Aujourd'hui, je suis obligé de mettre Daniel Vess.
Pour toi, c'est un message.
Bah oui, c'est un message forcément. Ouais. Et quand t'es appelé à un moment donné à mettre un des, c'est pas la première fois qu'il le fait, hein, puisqu'il pourrait le faire avec il l'a fait avec Marquinhos, il pourrait le faire avec Kerrer. Il le fait là avec Daniel Vess. À un moment donné, il envoie un message. Écoutez les gars, quand même, on a des défenseurs qui sont à une place stratégique dans le football moderne. C'est la place de récupérateur. Envoyez-moi un vrai récupérateur. C'est une forme de message.
Alors il l'a dit, hein, après le match, le message a été clair. Il l'a dit, Antero Henrique et le président Nasser El Khelaifi m'ont dit que j'aurais une recrue au milieu de terrain. J'ai peur que personne ne vienne. Mais en même temps, j'ai confiance. Je sais que le mercato en hiver, c'est compliqué. J'espère, mais j'ai peur. Quand le joueur sera avec nous, je pourrai bien dormir.
Non, parce que
ça montre inquiet.
Oui,
encore une fois.
Avoir pour avoir, ça ne sert à rien. Rajouter un joueur dans cet effectif, si c'est pour qu'il soit à peu près au niveau des deuxièmes couteaux, ça ne sert à rien du tout. Soit t'amènes un joueur confirmé, et on le sait, les joueurs confirmés à ce poste-là pour le Paris Saint-Germain, d'une, il n'y en a pas beaucoup. En général, ils sont sous contrat et ça coûte très cher. Dans la position du Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils sont capables de récupérer ce style de joueur? Je pense pas.
C'est un tournant aussi parce que
c'est le problème Rabiot.
Faut se mettre à la place des dirigeants du Paris Saint-Germain. On est à un tournant important, c'est-à-dire que tu es un candidat annoncé sur le cas Francky De Jong pour l'année prochaine, ce qui t'amène une nouvelle ouverture par rapport à ta philosophie de jeu. T'as Adrien Rabiot qui est censé être partant. Donc on est à un tournant. Les dirigeants, je pense, réfléchissent à comment trouver une période intermédiaire en prenant un joueur peut-être pas si médiatique que ça, ou peut-être pas si important que ça, mais qui peut faire l'affaire pour justement compenser et être à même de pouvoir apporter une plus-value sur la campagne européenne à venir. Mais le PSG prépare aussi l'année prochaine, qui sera aussi une saison importante puisque tu te projettes déjà avec Francky De Jong. Si tu gardes Mbappé, tu commences à voir les meilleurs jeunes du moment et tu dois pouvoir construire peut-être sur un nouveau cycle.
Francky De Jong, c'est pas encore fait.
Je peux comprendre que tu aies certaines hésitations ou peut-être sur le profil à prendre sur le moment.
Ouais, alors Rabiot, pour parler du cas de Rabiot, il en a parlé aussi en conférence de presse, Thomas Tourelle, en confirmant l'information qu'on vous avait donnée sur RMC, qu'Adrien Rabiot va bien participer au stage au Qatar qui débute demain jusqu'à jeudi prochain. Il a expliqué aussi cette semaine qu'il était ouvert, en tout cas, à ce que Rabiot puisse rejouer un jour avec le Paris Saint-Germain. Alors il a dit que c'était trop tôt pour en parler, qu'il faudrait attendre évidemment la fin du mercato et savoir si Rabiot faisait partie toujours de cet effectif. Mais il n'est pas impossible de revoir Rabiot. En tout cas, ce qu'a l'air de dire Thomas Tuchel, c'est que s'il y a un problème et que j'ai pas de recrue, Adrien Rabiot, je vais quand même peut-être le faire jouer. Je vais être obligé de le faire.
Parce qu'il est assez intelligent de pas fermer les portes, dans le sens où si tu te retrouves vraiment dans une situation où il n'a pas de milieu et que, admettons, Verratti est suspendu et que t'as quand même Rabiot, ben autant avoir un Rabiot que trop bricolé face à des grosses équipes. Mais en même temps, il se dit j'ai jusqu'au 31, donc je peux pas dire je me sers plus de lui. J'ai jusqu'au 31 et au 31 tout peut se passer.
Oui, mais là il va y avoir peut-être un petit problème avec sa direction, puisque c'est sa direction quand même qui l'oblige à écarter Adrien Rabiot, en tout cas les jours de match. Donc si Thomas Tuchel veut Adrien Rabiot, il va être obligé de négocier, peut-être d'entrer en conflit avec sa direction.
Encore une fois,
ouais, c'est un message.
Aujourd'hui, tu es entraîneur du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est toujours un joueur du club. Pourquoi ne pas l'utiliser si lui il est à même de fournir des prestations et qu'il est toujours impliqué? Mais moi, c'est toujours au niveau de la direction par rapport à ce qui se passe actuellement. Le problème il est surtout, la direction doit se positionner sur le cas Adrien Rabiot. Moi, si je suis demain la direction du Paris Saint-Germain, ce joueur qui a décidé de ne pas prolonger,
d'arrêter les discussions.
Je suis désolé. Aujourd'hui, Thomas Tuchel, il n'est qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, donc il est toujours là, le joueur, il s'en sert. Maintenant, la direction du Paris Saint-Germain, le board, doit prendre une décision, même si elle est radicale. Mais si Adrien Rabiot a décidé de partir du Paris Saint-Germain, Ben, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais. Alors certes, certains voudraient qu'il continue à être là, mais j'y crois pas une seconde. Alors, moi, il faut un message fort des dirigeants du Paris Saint-Germain. T'as décidé de quitter le club. Eh ben, bonne chance à toi. Et puis, on se reverra quand on s'encontrera dans quelques mois.
22h21, vous êtes dans l'after sur RMC, toujours avec Ali Benarbia et Ludovic Obraniak. On va prendre Thomas au 32-16, supporter du PSG. Salut Thomas.
Salut François, salut Ali et Ludo.
Salut Thomas. Merci beaucoup d'être dans l'after pour parler donc du Paris Saint-Germain. Avant de revenir peut-être sur le match de cet après-midi à Amiens, un petit mot puisqu'on parlait d'Adrien Rabiot. Est-ce que ça t'énerve qu'on parle encore d'Adrien Rabiot, toi supporter du PSG?
Non, parce qu'on est obligé de traiter de son cas encore, parce que vous avez parlé du mercato, et on sait que le mercato hivernal est encore est très compliqué. C'est pas un mercato d'opportunité où on va pouvoir poser les 80 millions pour attirer un Frankie de Jong, par exemple, plus doit en parler. C'est compliqué parce que ça, le mercato hivernal, ça te permet d'aller chercher quelqu'un qui est en manque de confiance dans son club, qui est en manque de temps de jeu dans un autre. Donc, voilà. Après, quand on connaît le potentiel du joueur Rabiot, qui est encore, on le rappelle, sous contrat au PSG, je comprends que Tourelle, ne voyant pas venir de 6 arriver au club, qu'il puisse évoquer ou tâter la direction pour réintégrer Rabiot. Ludo, tu sais, t'as joué en Allemagne, et ça se fait beaucoup en Allemagne, les joueurs signent en décembre, janvier dans des nouveaux clubs et finissent la saison avec le
Oui, mais si tu veux, c'est toujours de commun accord. Quand tu vois Pavard qui est à Stuttgart et qui signe au Bayern, il y a une sorte de progression. Aujourd'hui, Rabiot, c'est quand même quelqu'un qui joue dans un top club aujourd'hui, qui pourrait être considéré comme un top club européen, voire mondial, et qui décide, lui, en plus, c'est son club formateur, de prendre une direction différente. Moi, si je suis l'entraîneur, et que le joueur est toujours là, eh ben tant qu'à faire, je m'en sers. Si le joueur, j'ai une discussion avec lui et qu'il est à même d'être de donner le meilleur de lui-même et que tu peux lui faire confiance, ça c'est après un feeling entre l'entraîneur et le joueur. Mais du point de vue de la direction, si je me place du point de vue de Nasser, je peux pas le garder. Il peut pas aujourd'hui prétendre à être titulaire indiscutable en étant un joueur formé au Paris Saint-Germain et en acceptant pas de prolonger ou en rêvant d'évoluer sous d'autres cieux. Moi je pourrais pas tolérer ça de la part de d'un membre de la direction du Paris Saint-Germain.
Oui, c'est sûr, parce que tu fragilises encore l'institution à travers tu vas en quelque sorte donner raison à Rabiot et dire bah tu fais ce que tu veux et puis bah on te fait jouer, on n'a pas le choix. Mais voilà, moi je comprends vraiment Tourelle dans le sens où, en plus, quantitativement, on manque de joueurs en fait.
Si je me place du point de vue de Tourelle, je te dis oui.
Ouais, voilà.
Maintenant, le message que t'envoies, même pour le Paris Saint-Germain, on a personne. T'es le Paris Saint-Germain, t'as investi sur les dernières années une certaine somme d'argent, et aujourd'hui, tu es en mesure de dire on n'a personne, on est obligé de faire jouer Adrien Rabiot, qui ne veut plus rester chez nous alors que c'est son club formateur. Il y a pour moi comme un problème dans l'énoncé, et il faut vite que le Paris Saint-Germain se positionne sur un autre joueur qui est capable de remplacer Adrien Rabiot, peut-être pas en termes qualitatifs pour le moment, mais ou du moins de pouvoir compenser ne serait-ce qu'à moitié son potentiel.
C'est pas compenser, c'est pouvoir intégrer un effectif qui va avoir des échéances en Ligue des Champions et donner la possibilité à Tourelle de changer de schéma de jeu de temps en temps, parce que là en Ligue des Champions il n'a clairement que Marquinhos dans l'option 6 recrutés,
ça date d'avant Tourelle. Le problème c'est que ce poste-là ça fait pratiquement 2 ans et demi, en sachant que Thiago Motta jouait un match sur 7 ou 8, qu'il fallait absolument trouver un joueur, et ils n'ont jamais réussi à le faire, même au moment où ils devaient faire Fabinho. Krikoviak, le plan Krikoviak, ça n'a pas marché. Fabinho n'a pas marché non plus. Et automatiquement, tu perds Thiago Motta, et en même temps, tu perds Rabiot. Ça fait quand même beaucoup trop pour un poste qui est très important dans les grandes équipes européennes.
Bon, on va continuer à parler évidemment du Paris Saint-Germain, mais cette fois on va plus parler du match. On remercie Thomas, merci beaucoup d'être passé dans l'after, et à bientôt. On va parler de la rencontre et de cette victoire du Paris Saint-Germain 3-0 à Amiens. On va parler de Mbappé, de Cavani bien sûr, peut-être d'Areola aussi, qui les a peut-être sauvés en première période. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show, l'After Foot, François Pinet.
C'est parti, c'est reparti pour l'after à 22h30 sur RMC, toujours avec Ali Benarbia et Ludovic Obraniak. Il y a eu la déclaration d'amour, j'espère que vous ne l'avez pas raté, de Ludovic Obraniak pour Thomas Tuchel. On va continuer à parler évidemment du PSG qui s'est imposé 3-0 lors de la 20e journée à Amiens. On parlera dans un instant aussi de Guingamp-Saint-Etienne, victoire des Verts à Guingamp 1-0 et de la victoire de Nice face à Bordeaux 1-0. Pour revenir sur le match du Paris Saint-Germain, on va d'abord écouter la réaction du capitaine, le Brésilien Thiago Silva.
C'était un bon match, c'était pas un super match comme on s'est habitué à jouer, mais je crois que c'était quand même un bon match de notre part, surtout la deuxième. C'est pas parce qu'on a marqué trois fois, mais la façon de jouer c'était mieux. Et on a mérité ce résultat là. Maintenant, on va au Qatar, on va se préparer pour cette deuxième part de la saison que c'est la plus importante.
Voilà, le PSG qui compte donc 50 points au bout de 18 rencontres. C'est d'ailleurs avec la Juve la seule équipe à ne pas avoir perdu dans son championnat. Donc pour l'instant, elle survole cette équipe du PSG tranquillement la Ligue 1, parce que même quand elle n'est pas extraordinaire comme aujourd'hui, elle s'impose finalement 3-0. Bon, il y a des circonstances, il y a un pénalty, il y a le carton rouge évidemment d'Amiens. Mais voilà, c'est...
Moi, ce que j'ai peur, c'est que à force de changer, de gérer, est-ce que tu perds pas un petit peu le fil de ton organisation, de ton équipe qui va jouer, soi-disant, les grosses affiches. Parce que c'est pas un ou deux matchs, je veux dire, où que tu fluidifies ton équipe et ton effectif à fait tes joueurs types pour être prêt face aux gros matchs, s'il y a des gros matchs face à Lyon, s'il y a des gros matchs, et c'est le cas face à Manchester United. Et là encore, à force de changement, j'espère juste qu'arriver un certain temps, si Tuchel peut avoir tout le monde, et bien sûr, un Neymar à 100%, Mbappé, et qu'on retrouve vraiment son équipe type, qui joue au moins quelques matchs, après qu'il fasse des changements dans les 20, 25 dernières minutes. C'est bien, mais ça serait bien.
Ce qu'il a fait, là, d'ailleurs, avec Verratti, hein, qu'il a
fait au bout d'un quart d'heure. 4-5 changements, ça fait beaucoup trop, moi je pense, et février va vite arriver. Et je pense pas qu'on va avoir une équipe de Manchester United, comme on l'a vu à début de saison, hein. Faible, qui se pose des questions, c'est des joueurs qui ont l'habitude d'être sous pression, et eux, la pression, ils ont l'habitude de l'avoir. Et le problème du Paris Saint-Germain, la pression, ils l'ont, on l'a vu, que dans les matchs Champions League.
Donc méfiance avec trop gros turnover, t'es d'accord Ludo?
Non, pas forcément. Voilà, Paris, on est en début d'année.
Ils veulent être prêts au mois de février.
Oui, forcément, Thomas Tuchel a accordé certains jours de vacances à certains, a négocié avec d'autres. Je pense que le sérieux affiché en première partie de saison. N'oublions pas que c'est quand même ces joueurs stars sont quand même des grands enfants finalement. Ils ont besoin de temps en temps qu'on les récompense quand ils ont fait bien les choses. Et je trouve que les leaders de cette équipe ont fait une partie de ces premières parties de saison plutôt bonne.
Ils étaient présents.
Où ils ont pris une avance conséquente dans le championnat de Ligue 1. Ils terminent premier, même si c'était pas couru d'avance. Un groupe de Ligue des Champions particulièrement difficile. Je pense que c'est normal en termes de management de lâcher un peu la bride en ce début d'année qui est pas forcément...
Je parle de... Tu les vois, les clubs ont un petit peu la même façon de jouer avec le même rythme. Tu retrouves cette même pression que tu ne retrouves pas au Paris Saint-Germain. Tu l'avais trouvé en début de saison et je trouve qu'en fin de saison et peut-être pas spécialement au début de saison, mais déjà en fin de saison, on le ressent moins. Tu vas me dire c'est la Ligue 1. Mais c'est pas parce que c'est la Ligue 1 qu'automatiquement tu dois changer un petit peu ta façon de jouer. C'est juste ce que je reproche. Même s'il y a deux ou trois changements.
Je suis surpris, moi, les changements ne me gênent pas particulièrement. On est en début de saison, on est en début de reprise de deuxième partie de saison. Il faut donner du temps de jeu à certains qui n'en ont pas eu en première partie de saison. Certains ont eu un peu plus de temps pour se reposer. Ils seront les acteurs majeurs des mois à venir. Je trouve que c'est laisser le groupe dans une certaine de garder le groupe en tension, tu vois. Dani Alves qui a besoin de temps de jeu, il a pas beaucoup joué.
Mais quand on regarde plus l'équipe, il y a des joueurs qui vont être titulaires à Manchester, il y en a beaucoup, hein, Thiago Silva, puis, Marquinhos, Bernat, Verratti.
Prenant en compte que vu les manques à certains postes, il a aussi besoin de voir des choses. C'est-à-dire que c'est sur ce type de match où il a besoin de voir Kurzawa qui revient, où est-ce qu'il en est, Dani Alves il revient, où est-ce qu'il en est.
Dani Alves, je suis surpris.
Je suis surpris qu'il. Oui, mais bon, Dani Alves, il peut jouer partout. Ce joueur, c'est. Ouais. Il a joué à la Juve comme ça.
Il a les gros matchs. Est-ce que tu penses qu'il peut
non,
le refaire jouer à droite?
Non, mais t'as besoin de le remettre dans le bain. T'as besoin de le remettre
oui,
dans le bain.
Mais peut-être à son poste.
Thomas Meunier est pas au mieux de sa forme non plus. Il faut peut-être aussi lui donner plusieurs matchs consécutifs pour qu'il retrouve son niveau de jeu. Non, je trouve que c'est plutôt bien. J'étais surpris de pas voir les jeunes qu'on a vus en début de saison qui ont très bien marché.
Diaby, a disparu.
Diaby, Nzoki, tout ça. Je m'attendais à les voir un peu plus.
Bon, alors on va prendre Paul au 32-16 à 22h34 dans l'after. Salut Paul.
Salut les amis.
Salut Paul. Alors, tu es supporter du PSG et toi tu voulais revenir plus précisément sur le match de Mbappé. On l'a pas encore évoqué.
Ouais, Mbappé encore. Pensé Mbappé, je le trouve encore un peu moyen. Bon, on a vu un bon début de match. J'étais content de la première demi-heure de jeu. Tu sentais que l'équipe elle avait envie de se racheter du match précédent, vraiment. Je trouvais un bon bel entame. Bon, ça finit sur 0-0 à la mi-temps. Ça aurait pu être un peu plus clément pour Paris. Mais par contre, la deuxième mi-temps, ça a réattaqué un peu le train-train qu'on a vu ces derniers temps. Mbappé qui donne pas à Meunier quand il dédouble à droite, quelques petites attitudes où il préfère dribbler plutôt que de respecter le football, quoi, tout simplement. Et si on n'a pas ce penalty, je me dis que ce match il aurait pu s'embourber facilement, quoi.
Mmh. Ah, surtout que le penalty. Là encore, je regarde, je veux dire, le ballon est parti, le joueur se met en avant pour vraiment contrer la frappe, c'est pas une intention de vouloir vraiment faire une grosse faute. Moi, j'aurais pas vu spécialement penalty sur ce.
Ah oui, sur la main encore. Oui, moi, ça, c'est, il y a toujours les débats sur la main.
Au même, c'est pour moins que ça aussi.
Hein. Oui. Mmh. Ben, c'est ça le problème.
Je comprends ce que tu veux dire dans un sens, mais ne minimisez pas l'importance de ce type de joueur dans votre effectif actuel.
Mbappé.
Non,
mais c'est-à-dire que ce garçon, ce qu'il fait, c'est tellement incroyable depuis si peu de temps, mais en même temps, c'est tellement fou, c'est devenu banal pour vous de voir ce joueur éliminer 5 joueurs, mettre des doublés, des triplés. S'il vous plaît, un peu d'indulgence, il est encore jeune, il peut encore avoir des manques, avoir des trucs. Ça va être celui qui fera, avec un ou deux autres joueurs, qui fera que vous alliez loin ou pas cette année en Ligue des Champions.
C'est clair.
Préservez-le. C'est-à-dire, ok, des fois, excès de confiance, excès de trucs. Ouais, franchement, on a envie de lui pardonner à ce garçon. Il est jeune, et puis il me paraît pas.
Je suis pas en train de lui taper dessus.
Non, mais je sais, mais si tu veux, le moindre match où il est un peu en dessous, il marque encore ce soir quand même. Il est buteur encore ce soir. Depuis combien de temps ses stats, c'est incroyable.
Ouais, 14.
Je peux comprendre que sa manière d'être depuis quelques temps après, il peut y avoir des fois un peu de désinvolture, un peu de. Mais bon, s'il vous plaît, c'est juste de la jeunesse.
Ouais, bien sûr, mais je voulais juste mettre ça en fait en parallèle avec aussi le train-train qu'a montré l'équipe en deuxième période. Je me suis dit que c'était un peu aussi le symbole de cette petite suffisance que montre le PSG souvent dans ce genre de match, quoi. Et qui aurait pu nous coûter le match, hein, parce que je te dis, ouais, le penalty, il est gentil, ouais.
Mais bon. Tu es pas bon collectivement ce soir, c'est-à-dire que collectivement le PSG a pas fait un grand match ce soir, mais non, dans ce genre de match, justement, tes individualités, même pas au top de leur forme, suffisent à faire la différence.
Ah bah oui, mais ça on le voit depuis des années.
Suffisent à faire la différence. Et moi je les attends. C'est quand même pas. C'est-à-dire que on est habitué maintenant avec le Paris Saint-Germain à des choses qui sont de haute volée. Mais aller gagner à l'extérieur 3-0, c'est quand même pas donné à tout le monde. Dire que même dans n'importe quel championnat, même si t'es au-dessus du lot, même si tu peux trouver mille excuses si tu veux, aller gagner 3-0 à l'extérieur, c'est pas si simple que ça. Et là, tu le fais sans avoir ton équipe, sans avoir ton équipe type. Et en plus, tu le fais à l'extérieur. Donc, bon, l'un dans l'autre, le PSG fait pas un grand match. Mais bon.
Oui, ils sont dans la gestion.
Hein, ça va pas changer le cours de l'histoire.
Oh, merci Paul. Merci beaucoup d'être passé dans l'after.
Petite dédicace rapide.
Vas-y.
Je dédicace à mon cousin qui est à côté de moi et à Boris qui sont en train de jouer à la PlayStation, qui sont en train de
Ils ont pris Ali ou pas
Non, non pas là, ils ont pris Man City.
En mode légende, à Man City, il n'y a pas Ali ou pas
Non. Ciao les mecs.
Merci Paul. Allez, sur RMC. Le Paris Saint-Germain, donc, qui s'impose 3-0. On a parlé de Mbappé. Cavani, moi, c'était mon petit coup de cœur parce que c'est vrai que il peut être très agaçant, notamment en première mi-temps. Il rate des choses parfois qui ont l'air simples. Et puis, il est quand même là avec son but, sa passe décisive. Il a marqué son 11e but de la saison. Et surtout, je pense que Cavani est indispensable à Mbappé. C'est-à-dire que Mbappé peut pas jouer tout seul en numéro 9. Je sais pas ce que vous en pensez.
Il peut pas jouer.
Comme lors de la première mi-temps contre Guingamp. Il a besoin d'un point de fixation, en tout cas d'un joueur comme Cavani.
Je suis pas forcément d'accord avec vous, mais je trouve que Cavani est malgré tout un joueur décisif. Enfin, on parlait des cadres tout à l'heure, c'est-à-dire que même quand collectivement le PSG n'est pas au-dessus du lot, eh ben il suffit d'avoir un joueur qui est impliqué, qui a le sens de l'esprit club, des valeurs, qui est régulier maintenant au Paris Saint-Germain, même si on lui prête un peu de maladresse de temps en temps, mais c'est un joueur qui ne déçoit jamais ou sur une période très courte. Ce soir, il fait pas un match extraordinaire, mais sa fiche de stats, fait que il est indispensable au Paris Saint-Germain.
Ce qui me plaît, c'est que par contre, pour un avant-centre comparé à d'autres avant-centres, quoi qu'il se passe, si l'équipe joue bien ou pas bien, il est toujours dans la surface. Il est tout le temps, s'il y a un débordement, une passe en profondeur ou en retrait, c'est l'avant-centre qui est toujours dans la surface et qui fait en sorte d'être toujours là. Quand il faut, même si les ballons n'arrivent pas. Et ça, pour une équipe, c'est très important.
Allez, 22h40, on revient dans un instant dans l'after sur RMC, toujours avec Ludovico Bragnac et Ali Benarbia. On va parler de Guingamp dans un instant. Guingamp qui s'est incliné face à Saint-Etienne, 1-0. Est-ce que les Guingampais se dirigent vers la Ligue 2? On verra qu'aucun club n'a réussi à le faire après 11 points en 19 matchs. À tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, François Pinet.
22h44 sur RMC, on est de retour dans l'after jusqu'à minuit avec Ali Benarbia et Ludovico Bragnac toujours. On va parler dans un instant de Nice-Bordeaux, la victoire de Nice face à Bordeaux. On a parlé longuement de la victoire du PSG 3-0 à Amiens. Je vous donne juste le score aussi de la Juventus puisque c'est terminé en Italie. C'était les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie et c'est la Juve qui s'impose à Bologne 2-0. Voilà, qui se qualifie pour les quarts de finale au même titre que l'AC Milan et la Lazio de Rome. Guingamp s'est incliné face à Saint-Etienne 1-0, but de Caserie à la 6e minute. Guingamp, dernier du classement, on le savait déjà. Désormais, ils ont 11 points en 19 rencontres. Et cette petite statistique, personne n'a jamais réussi dans l'histoire avec ce nombre de points à ce stade-là de la compétition à se sauver en Ligue 1. Les Guingampais, on est avec Xavier Grimaud qui a commenté la rencontre pour RMC. Salut Xavier.
Salut François. Salut, bonsoir
Xavier.
Messieurs.
Salut Xavier.
Alors qu'est-ce qui a été dit en conférence de presse? Est-ce qu'on est abattu du côté de Guingamp, du côté de Jocelyn Gourvennec, ou on y croit encore?
Oui, on y croit encore évidemment. Non, pas abattu. Gourvennec est même plutôt très lucide. Il a pas essayé de positiver. Il a dit tout simplement que il avait pas aimé le match de son équipe, que son équipe s'était battue, avait dominé la seconde période, mais que bon, c'était toujours une course poursuite, je le cite, stérile, laborieuse, et que finalement Guingamp n'avait eu que deux occasions réelles, et que donc ils n'avaient pas joué à leur niveau, qu'ils avaient manqué de rythme dès le début du match. Alors forcément, le match au Parc, l'exploit, est-ce que ça avait laissé un peu d'influx, lui disait qu'il n'avait pas senti qu'à l'entraînement il y avait eu d'euphorie ou quoi que ce soit, mais voilà, ça peut être inconscient pour les joueurs se remettre dans le rythme après avoir créé un tel exploit. Voilà, ce qui est sûr, c'est que Gourvennec dit même, est-ce qu'on méritait un point? Pas sûr. Donc, constat très lucide. Il sait également que son équipe est capable de faire mieux. Et il disait qu'ils auront, Guingamp aura d'autres occasions à domicile et à l'extérieur de jouer mieux et de prendre des points. Donc, pas du tout abattu dans la course au maintien. De toute façon, il le répète tout le temps, c'est l'exploit que doit aller chercher les Guingampais. Donc, il va pas commencer à être dépité dès le mois de janvier. Enfin, j'ai trouvé très lucide, vraiment. Il n'a pas essayé de faire de méthode couée, il a dit les choses clairement, et je suis assez d'accord avec sa vision du match. Ali, Ludo, je ne sais pas comment vous avez trouvé les Guingampais, mais voilà, ils n'ont pas fait un bon match, les Guingampais.
Tu es constamment, quand tu es dans ce genre de situation, moi je pensais que justement le match à Paris allait donner un regain d'énergie, insuffler quelque chose, une dynamique, mais finalement quand tu reviens dans le cadre du championnat où moi j'ai vécu ce genre de situation, psychologiquement, tu es quand même atteint, tu es constamment sur le fil du rasoir. Et quand tu commences le match contre une équipe comme Saint-Etienne et qu'au bout de 6 minutes tu prends un but comme ça sur une faute de main de ton gardien de but, eh ben ça c'est préjudiciable pour la suite du match, forcément ça influe. Déjà t'es pas au mieux psychologiquement quand tu prends un but comme ça et que tu vois Saint-Etienne et le rendement de Saint-Etienne ces derniers temps, eh ben tu prends un coup sur la carafe et c'est ce qui a été le cas. C'est ce que j'ai vu en tout cas, à partir du moment où ils ont pris le but, ils n'ont jamais eu cet instinct de révolte, parce qu'ils ont la tête dans le guidon et que c'est pas forcément dur d'en sortir. Ils sont courageux, hein, les Guingampais, mais aussi par rapport à la composition de départ, il y a des joueurs en forme, des joueurs qui reviennent. Ben, j'ai pas compris qu'un joueur comme Nbakoto, qui a été décisif ces derniers temps, ne commence pas ce match-là.
Ouais, ça, c'est le message.
À domicile, notamment.
Oui, c'était pour de la fraîcheur que Jocelyn avait mis des joueurs justement.
Mais quelle fraîcheur, Yeni, il a pas joué les six premiers mois. C'est quelqu'un qui a faim. Il a pas joué les six premiers mois. Il rejoue. Il est dans une dynamique qui est pas trop mauvaise. Et vas-y, laisse-le.
Mais en plus, c'est même pas une question de fraîcheur. C'est que le championnat est beaucoup plus important. Si le joueur après. Il est cuit au bout de 45 ou 60 minutes, bah tu le sors et tu fais rentrer un joueur frais à la réserve. Mais là, je retrouve plus du tout Guingamp. Même on parlait d'agressivité, d'envie qu'a l'habitude de faire les Guingampais au Roudourou, rien du tout. Même Thuram, il est en train de prendre un petit peu le niveau de son équipe, surtout qu'il l'a décalé sur un côté.
Alors c'est sur le côté, c'est Roux qui était dans l'axe.
Oui, alors qu'en ce moment, t'as beaucoup plus besoin d'un Thuram devant, dans l'axe, face au but, parce que c'est l'un des seuls qui peut marquer et mettre. On parlait un petit peu d'assurance technique, d'assurance tactique et physique pour ces joueurs dès qu'ils prennent un but. Automatiquement, quand Thuram marque un but, automatiquement, non, mais le Guingamp est totalement différent.
D'autant plus, Nolan, il revient de blessure. Il a été blessé partie de la première saison. Il joue pas une minute sur le match de Coupe de France. Et là, où ils vont gagner, et là tu le mets titulaire d'entrée.
De Coupe de la Ligue.
De la Coupe de la Ligue, pardon.
Et là que tu dois le mettre sur le banc.
Mais
et le faire après, si t'as la
Après, moi je suis pas entraîneur, mais on est en droit de se poser la question aussi.
Alors Thuram justement, c'est intéressant. Alors Ali, je suis pas complètement d'accord avec toi parce que je trouve que Marcus Thuram a joué dans l'axe en début de saison, même au début quand Gorenek était là, et qu'il fait plus de différence sur le côté. Là, ce qui a été marquant dans le match, c'est qu'il a été très bien pris par les Stéphanois. D'ailleurs, j'ai posé la question à Jean-Louis Gasset, qui a tout simplement dit que pour lui, Marcus Thuram serait un futur très grand joueur, et qu'il avait décidé donc de faire une prise à deux en fait systématique sur Marcus Thuram. Le jeune Saliba, notamment 17 ans, hein, le jeune défenseur central, a gagné beaucoup de duels face à Thuram côté gauche. Du coup, Marcus Thuram s'est exilé côté droit quasiment toute la deuxième période et semblait manquer un petit peu également de rythme. Lui aussi semblait tirer la langue. Jean-Louis Gasset, justement, François, les Stéphanois très contents, évidemment, tu imagines. Surtout que on avait pointé pas mal les mauvais résultats des Verts à l'extérieur, qui eux-mêmes pointaient les faits de jeu contraires lors des derniers matchs à l'extérieur. Donc Jean-Louis Gasset tout simplement dit que c'était loin d'être le meilleur match à l'extérieur, qu'ils avaient beaucoup mieux joué les matchs précédents, mais qu'ils avaient eu un point en trois matchs et que ce match-là, en jouant moins bien, finalement ils en avaient trois. Donc on dit que ça s'équilibre, peut-être que c'est le cas, mais il nous en reste encore à récupérer, a dit Jean-Louis Gasset, qui était évidemment très satisfait, surtout que Saint-Etienne va récupérer des joueurs, ça c'est une des infos qu'il nous a donné. Dès lundi, Debuchy et Subotic notamment reprendront avec les Verts.
Il récupère Cabella ou Mercato, ou comment ça se passe?
Ah, tu as pas trouvé bon Cabella. Ouais, il a joué un petit peu seul.
Ça fait un moment.
J'attends qu'il soit décisif.
C'est qu'on attend qu'il arrête de jouer tout seul.
Ouais, absolument.
Surtout. Il s'est achète un ballon comme à la foire là, tu sais, avec l'élastique et puis tape le ballon, il revient à chaque fois.
Il y a que là qui prend du plaisir. Par contre, moi, sur le coup franc de Cazeri, le mur. Il n'y a pas de mur. Et le gardien, il est sur la ligne, quand même. Je sais pas.
Sur la ligne, il est un petit peu décalé sur le centre.
Oui, je sais. Mais
il comprend pas du tout son côté.
Je comprends pas le mur, comment il l'a placé. Parce que si le mur, il est bien placé, Cazeri peut la mettre par terre, elle passe jamais.
Mais si tu te rends compte, le mur est complètement sorti. C'est-à-dire que Saint-Etienne, mine de rien. Comme Nice, hein, mine de rien. Troisième. Le derby dans pas longtemps.
Ouais.
Pas de neuf, qui vraiment s'impose. Cabella qui pourrait jouer, être meilleur en jouant plus simplement. Et ça laisse des perspectives pour la suite du championnat.
Merci Xavier. Merci beaucoup. Xavier.
Merci à vous.
Et à très bientôt évidemment sur l'antenne d'RMC. On va prendre Arnaud au 32-16. On va continuer un peu à parler de Guingamp. Salut Arnaud.
Salut les gars.
Salut, salut les supporters de Guingamp. Et tu as entendu Xavier, donc évidemment à Guingamp, c'est la méthode Coué, on essaye de se dire que c'est pas terminé. Mais au vu du match, toi, est-ce que tu as encore des motifs d'espoir?
Bah, tant que mathématiquement ce sera encore possible, je vais y croire. Après, c'est sûr que ça se complique. Surtout, sur la physionomie du match, on a un poteau, on a peut-être un pénalty. Alors après, j'ai pas revu les images. La VAR qui décide de Thuram, il se fait un petit peu faucher. Après, j'ai pas vu la vidéo. Donc tout est contre nous, quoi. Donc j'ai l'impression que ça va être difficile. Ça va être comme ça toute la saison. Donc j'ai un peu peur quand même qu'on se maintienne pas. Malgré ça.
Ouais, voilà, on a l'impression que c'est une équipe, et Ludo le disait, où tout tourne en leur défaveur, en fait. Il y a peut-être un petit quelque chose, général, effectivement, sur Thuram.
Avant-dernier.
On a bien vu Monaco. Dès la sixième minute.
Monaco, ils ont tout contre eux et ils sont
Mais Ludo le sait, moi, ça me rappelle la saison de Metz. C'était comme ça aussi. Des matchs qui, pas, parfois, sur le coup, n'étaient pas mauvais, mais
tu peux pas en faire une fatalité.
Sinon, c'est trop facile.
C'est trop simple.
T'as 90 minutes quand même.
Les joueurs ont une vraie responsabilité aussi. Ça fait, on a Antoine Camboiré qui est un coach pour moi très compétent et qui aidera peut-être Dijon à se sortir de la muse. Jocelyn Gourvennec qui est un entraîneur tout autant compétent. Et au final, rien ne change. On ne voit pas d'évolution. Donc, si tu ne vois pas d'évolution par rapport à deux entraîneurs qui sont des entraîneurs qui ont des stratégies, une façon de fonctionner, ils résonnent d'une manière différente, les deux. Eh ben, ça veut dire que les joueurs ont une part de responsabilité.
Surtout les joueurs.
Arnaud, juste une question, parce qu'il y a quand même une demi-finale de Coupe de la Ligue pour Guingamp à jouer, Guingamp-Monaco. Il y a peut-être un titre au bout. On imagine que toi, tu préférerais que l'équipe se maintienne plutôt qu'avoir le titre en Coupe de la Ligue.
Ah oui, sans hésitation, j'aurais préféré prendre les 3 points en championnat contre Paris. D'ailleurs, s'ils veulent nous les donner, il n'y a pas de problème.
Oui, ça,
et
c'est
nous, on leur laisse la Coupe de la Ligue.
Ouais,
non, mais c'est... Après, maintenant, la motif de il va peut-être avoir la motif de satisfaction, c'est les nouveaux joueurs. Il y a Ndong qui a fait sa rentrée là.
Ouais.
Donc 15 minutes, c'est un bon joueur. Après, on a Larsson, l'arrière droit. On a Eboua qui monte en puissance.
Il y a Gilles Obodji aussi qui vous a rejoint.
Il y a lui. Donc après, ça va peut-être changer dans les semaines à venir. Après, la saison est longue.
Bon, on se souhaite du courage, évidemment, Arnaud. Merci beaucoup d'être passé dans l'after.
Merci, Arnaud.
Un petit mot, messieurs, quand même, sur Saint-Etienne. Merci. Donc, tu le disais, Ludo, mais c'est vrai que Saint-Etienne a un très bon coup à jouer. Puisque ensuite il y aura Marseille la semaine prochaine, puis Lyon, à chaque fois à Geoffroy Guichard. Après cette victoire 1-0, ça veut dire que Saint-Etienne peut s'installer dans le haut du tableau. Ça va être peut-être le tournant de leur saison, d'ailleurs.
Savoir gérer un petit peu ces moments-là où t'as les gros matchs durs et continuer à prendre les fameux 3 points face aux petites équipes pendant que les autres ils sont en train de trébucher. On l'a vu, Marseille qui perd des points, Lyon qui perd des points. Le championnat, en fait, c'est pas d'être très bon et de gagner 2-3 matchs, c'est d'être pratiquement régulier et grappillé à chaque journée pendant 38 journées. Et c'est ces équipes-là qui se retrouvent dans les 5 premiers. Et Saint-Etienne, si elles s'y prennent bien et qu'elles fassent le moins d'erreurs possible, déjà par rapport à l'adversaire, elles pourront en profiter. Mais ce que j'ai peur pour Saint-Etienne, c'est juste que Cazerie se blesse ou soit suspendu.
Ouais, c'est vrai que Cazerie est très très important pour Saint-Etienne.
Il était
son 10e but cette saison en Ligue 1.
Dépendant à Rennes, dépendant à Saint-Etienne.
Donc Saint-Etienne qui est 4e avec le même nombre de points que Lyon, 33 points à 4 points de Lille, mais avec un match en moins par rapport à Lille.
Il y a des virages dans une saison. Saint-Etienne arrive à un virage déjà très prochainement où ils vont recevoir et Lyon et Marseille.
Ouais.
On en saura plus sur l'avenir des Verts après ces deux rencontres.
Alors, on va en reparler, évidemment, alors que Saint-Etienne a ce virage la semaine prochaine. Juste pour les Guingampais, donc 11 points à 2 points de l'AS Monaco, 19e, et à 5 points maintenant du barragiste Dijon, 18e. Et puis, on va parler dans un instant sur RMC dans l'after de Nice-Bordeaux, puisqu'on sera avec Yann Pécheral, qui nous donnera peut-être des informations, on a peut-être des infos à vous donner sur le nouveau président après le départ de Jean-Pierre River et de Julien Fournier, qui était au stade pour ce Nice-Bordeaux, cette victoire niçoise face face à Bordeaux. On parlera aussi de foot anglais avec le retour sur les pelouses de Samir Nasri lors de la victoire de West Ham face à Arsenal. On sera avec Julien Laurence pour parler aussi de la défaite des Gunners, de la victoire de Chelsea et puis du choc à venir. Ça sera demain en première ligue, Tottenham-Manchester United. Et puis évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'événement de la journée de Ligue 1 demain, Marseille-Monaco. Ça, c'est un choc à suivre. C'est le match de la peur peut-être, avec Fabregas qui est déjà dans le groupe, tout comme Balotouré. On revient donc dans un instant, toujours avec Ludovic Obraniak, toujours avec Ali Benarbia pour l'after jusqu'à minuit sur RMC. À tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot.